C'est beaucoup dire, car nous sommes déjà en plein eugénisme en France. Parce que la disposition qui est discutée, c'est une disposition qui existe déjà en France depuis plus de 5 ou 6 ans. Et donc certains avaient voulu, au lieu de faire quelque chose, une proposition qui avait l'air d'être une obligation, de laisser plus de place à l'échange entre le médecin et la patiente. Or, c'est cette question-là qui est en discussion à l'intérieur même entre les médecins, si vous voulez. Certains voudraient, ont l'impression qu'on va les obliger dans un sens et d'autres qu'on va les obliger dans l'autre, porter atteinte à la liberté du médecin, d'autres porter atteinte à la liberté de la femme. Alors, ce sont des questions qui sont très délicates, sur lesquelles j'ai entendu des médecins catholiques, pour leur part, ceux que j'ai côtoyés encore tout récemment, préféreraient qu'on laisse la place à une relation plus humaine entre la femme et le médecin.
Alors justement, certains mettent en avant le droit des femmes et une égalité de traitement. D'autres, en revanche, dénoncent une surenchère du dépistage, puisque c'est l'enjeu, hein, finalement. Comment trouver le juste milieu ?
C'est assez difficile. Pour ce que je connais, pour avoir travaillé avec des groupes de médecins chrétiens qui sont affrontés à cette question, tout ce qui peut être favorable à une parole directe entre le médecin consulté et la femme consultante, c'est cela qui va dans le bon sens. Tout ce qui a l'air d'être une systématisation automatique où on remplit un papier, on signe en bas sans avoir parlé, c'est quelque chose qui se révèle catastrophique. Les dégâts humains qui sont faits par une médicalisation brutale et je pense que ceux qui plaident pour la libéralisation, la liberté de la femme, sont souvent inconscients de ce qui se passe réellement dans le rapport entre une femme qui est angoissée par la perspective d'un enfant handicapé et le médecin à qui elle se confie.
En somme, il faut remettre plus d'humanité dans la relation patient-médecin, oui, c'est ce que vous nous dites.
Oui, moi je pense que c'est ça le fond de la question. Et je pense que la récrimination de ceux qui sont en faveur d'une soi-disant liberté de la femme est en réalité une récrimination souvent idéologique de ceux qui plaident depuis toujours en France pour ce qu'ils appellent la liberté d'avorter. Mais si vous voulez, tout ce que j'entends de médecins, qu'ils soient gynécologues, de sages-femmes, de médecins généticiens qui sont confrontés à la douleur et à la gravité de ces situations, me fait dire que tout ce qui a l'air d'être un automatisme administratif, même si c'est sous l'apparence de liberté et d'égalité, c'est une erreur sur le terrain.
Et comment faire, Olivier de Dinchin, concernant cette pression, on va dire, des médecins envers les patientes? Est-ce que c'est un manque d'écoute? Est-ce qu'il faudrait former, plus à l'écoute? Est-ce que l'on peut imaginer des solutions?
Si vous voulez, les médecins sont formés plus ou moins à l'écoute, ça c'est quelque chose qui est très important. Ils sont souvent pris par le temps et face à une situation qui est ennuyeuse, ils ont tendance à l'éviter plutôt que de prendre le temps d'en parler et de mettre vraiment les personnes devant leurs responsabilités. Voilà, donc c'est tout cela. Un appareillage administratif trop strict contribue à déresponsabiliser les médecins. Mais il faut bien reconnaître qu'ils sont dans une situation humaine de médecins qui est une des situations dramatiques les plus courantes de la médecine actuelle.
L'autre grand thème de cette loi bioéthique, c'est évidemment la recherche sur les cellules souches et en particulier les cellules embryonnaires. Oui. La commission sociale des affaires sociales est passée d'abord à l'interdiction avec dérogation, c'est ce qui prévalait jusqu'ici, à oui. Aujourd'hui un régime d'autorisation. Est-ce que là aussi on n'est pas en plein risque génique et surtout en plein scientisme, parce que c'est au nom du progrès de la science justement?
Oui, ben, si vous voulez, la disposition qui consiste à dire on maintient le principe et on met des dérogations a été jugée hypocrite par certains. Mais, si vous voulez, elle permet quand même une casuistique et un principe qui est maintenu. À partir du moment où vous dites « autorisation encadrée », le mot « autorisation » prévaut, et à ce moment-là, cela veut dire que l'embryon n'est plus protégé par la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est, sur le principe, absolument catastrophique. Un embryon n'est plus reconnu comme un être automatiquement digne de vivre. Il y a une sorte d'autorisation qui va donner, bien sûr, un peu encadré. On ne prendra pas tous les embryons pour faire ça. Mais ça sera, tant qu'il y aura une demande scientifique de ce côté-là, on va vers quelque chose qui, jusqu'à présent, était très formellement interdit, c'est de créer des embryons en vue de la recherche. Et ça, on en est tout proche maintenant.
Quel est un peu votre état d'esprit face à ce débat en général?
Ben, si vous voulez, le débat en France était parti d'une manière assez satisfaisante pour les chrétiens. Ils avaient participé très très largement aux grandes réflexions collectives qui avaient eu lieu, ils avaient fait un blog, et les positions prises par les premières instances étaient des positions que l'on peut dire sages, c'est-à-dire compatibles avec la société française. Et dans les dernières semaines, c'était d'une certaine manière attendu, ce sont les extrêmes qui se mettent à jouer, et les extrêmes jouent des deux côtés. Notamment, par exemple, aussi pour l'anonymat, la levée de l'anonymat sur les donneurs.
Il faut remettre de la réflexion de l'humanité et puis peut-être ne pas perdre de perspective le bien commun, finalement. C'est un peu ça que l'on perd.
Si vous voulez, l'idée de bien commun, vue d'un point de vue de la théologie chrétienne, c'est un bien qui n'est pas simplement moral, qui comporte bien sûr la paix publique, la paix des familles, des meilleures confiances entre les médecins et leurs patients, etc. Toutes ces questions sur lesquelles, je pense, notre société a une certaine vigilance, mais qu'elle comporte aussi, dans le point de vue chrétien, c'est un bien commun moral. C'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord sur ce qu'il est bien de faire fondamentalement, ce que l'Église appelle la loi de la raison naturelle, quoi. Et c'est ça qui est secoué très fortement et qu'il faut sans cesse réargumenter. Alors, ce que font les comités nationaux, ce que font les instances de réflexion sur les droits de l'homme, etc. Mais autour de certains points sensibles, la réflexion est difficile et son aboutissement à des positions modérées est remis en question par des grandes voix qui s'élèvent d'un côté ou de l'autre, et en particulier grandes voix qui promettent un progrès scientifique qui par ailleurs est contesté. Les progrès thérapeutiques sur ces domaines-là sont nuls, hein. On fait des progrès diagnostiques autour de l'embryon, on ne fait aucun progrès thérapeutique. On a fêté cette année le 10e anniversaire du décodage du génome humain. Quand on compare les discours triomphalistes d'il y a 10 ans avec la réalité d'aujourd'hui, on rabat un petit peu le caquet des chercheurs et des scientifiques. Ils sont arrivés à pas grand-chose.